Chapitre 8. Continuation ultérieure. Le personnage en question était M. Weston. Il n'aperçut pas plutôt M. Allworthy que, sans avoir le moindre égard pour la présence de Mrs. Waters, il se mit à vociférer de la manière suivante. « Voilà de belles besognes chez moi. Un beau plat de poisson que j'ai découvert à la fin. Qui diable voudra désormais s'embarrasser de la garde d'une fille ?» « Qu'est-ce donc, voisin ?» dit Allworthy. « Ce que c'est, répondit Weston. Quand je croyais qu'elle allait se rendre, quand elle m'avait promis en quelque sorte de faire tout ce que je voudrais, quand j'espérais n'avoir plus rien à faire que d'envoyer chercher le notaire pour finir tout, que croyez-vous que j'ai découvert ? Que la petite coquine s'était jouée de moi pendant tout ce temps-là et avait continué d'entretenir une correspondance avec ce bâtard de votre façon. » Ma sœur Weston, que j'avais querellée à son sujet, m'en a écrit un mot, et j'ai ordonné qu'on fouillât ses poches pendant qu'elle dormirait. Et l'on y a trouvé une lettre signée du propre nom de ce fils de pute. Je n'ai pas eu la patience d'en lire la moitié, car elle est plus longue qu'aucun des sermons du curé Supple. Mais j'ai vu clairement que tout cela ne roulait que sur l'amour, et en effet, que pourrait-ce être autre chose? Je l'ai coffrée encore une fois dans sa chambre, et demain matin, je la renvoie à la campagne, à moins qu'elle ne consente à être mariée sur le champ. Elle y vivra dans un grenier, au pain et à l'eau, pour le reste de ses jours. Et le plus tôt qu'une pareille coquine me débarrassera d'elle, sera le mieux. Quoique le diable l'emporte, cela me paraisse trop dur. Mais non, elle vivra assez longtemps pour me tourmenter. Monsieur Weston, répondit Allworthy, vous savez que j'ai toujours protesté contre la force. Et vous aviez consenti vous-même à ce qu'il n'en fût employé aucune. Oui, mais c'était à la seule condition qu'elle obéirait sans cela. Que diable ne puis-je faire ce que je veux de ma propre fille, surtout quand je ne veux que son bien? Eh bien, voisin, si vous voulez me le permettre, j'entreprendrai de raisonner avec elle. Le voulez-vous, c'est bien obligeant de votre part, et d'un bon voisin. Et peut-être en obtiendrez-vous plus que je n'ai pu faire jusqu'ici. Car je vous assure qu'elle a très bonne opinion de vous. Eh bien, si vous voulez retourner chez vous et la tirer de sa prison, j'irai la voir dans une demi-heure. Mais si pendant ce temps, elle allait s'enfuir avec lui, car Darling, l'homme d'affaires, m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir que le drôle fût pendu, attendu que son adversaire est vivant et paraît devoir être bientôt en parfaite santé. Il pense en outre que Jones ne tardera pas à sortir de prison. Comment, dit Allworthy, l'aviez-vous chargé de prendre des informations ou d'agir dans cette affaire? Non, pas moi, répondit Weston. Il vient à l'instant de me dire tout cela de lui-même. À l'instant, s'écria Allworthy, où l'avez-vous donc vu? J'ai absolument besoin de le voir aussi. Vous pourrez le voir, si vous voulez, en ce moment même chez moi. Car il doit y avoir ce matin un rendez-vous d'avocat au sujet d'une hypothèque qu'on me conteste. Pardieu, cet honnête M. Nightingale me fera perdre, je crois, 2 ou 3 000 livres. Je serai chez vous, monsieur, dans une demi-heure, dit Allworthy. Prenez une fois l'avis d'un homme qu'on appelle un sot. Ne vous amusez pas à jouter avec elle en prenant des moyens doux, croyez-moi. Ils ne feront rien. Je les ai essayés assez longtemps. Il faut absolument l'effrayer. Il n'y a pas d'autre moyen. Dites-lui que je suis son père, montrez-lui toute l'horreur du péché de désobéissance et de la punition effroyable qui lui est réservée dans l'autre monde. Dites-lui bien qu'elle court le danger d'être enfermée toute sa vie dans un grenier et d'y être nourrie au pain et à l'eau. Je ferai tout ce que je pourrai, car je vous proteste que je ne désire rien davantage qu'une alliance avec cette aimable personne. Quant à cela, la petite est assez bien. Un homme pourrait faire bien du chemin et rencontrer pire. Je peux le déclarer même si elle est ma fille. Et si elle voulait seulement m'obéir, on trouverait à peine un père à 100 000 à la ronde qui aime à mieux sa fille que je n'aime la mienne. Mais je vois que vous avez affaire avec cette dame. Je retourne donc chez moi vous attendre et je suis votre humble serviteur. Aussitôt que M. Weston fut sorti, Mrs. Waters dit « Je vois, monsieur, que M. Weston ne se rappelle aucunement de m'avoir vu. Je crois, M. Allworthy, que vous ne m'auriez pas reconnu non plus. Je suis considérablement changé depuis le jour où vous avez eu la bonté de me donner ces avis que j'aurais été trop heureuse d'avoir suivis. Je vous l'avoue, madame, je fus extrêmement affligé lorsque j'appris le contraire. Oh, monsieur, j'ai été perdu par un projet infâme, tellement bien concerté, que si vous le connaissiez, quoique je ne puisse espérer de me justifier dans votre opinion, il diminuerait beaucoup de ma faute et vous engagerait à me plaindre. Vous n'avez pas aujourd'hui le loisir d'entendre toute mon histoire, mais ce que je puis vous assurer, c'est que j'ai été trompé par les promesses de mariage les plus solennelles. Je dirai plus, j'ai été marié à la face du ciel, car, après avoir lu beaucoup de livres sur ce sujet, je suis convaincu que les cérémonies particulières ne sont requises que pour donner une sanction légale au mariage, et ne servent qu'à garantir les avantages civils à une femme mariée. Mais celle qui vit constamment avec un homme, après une union qui n'en est pas moins solennelle pour avoir été secrète, et quelque nom que le monde puisse lui donner, a peu de choses à se reprocher dans le fond de sa conscience. « Je suis fâché, madame, dit Allworthy, que vous ayez fait un si mauvais usage de votre instruction. Assurément, il eût été heureux pour vous ou d'en avoir acquis davantage, ou d'être resté dans un état de complète ignorance. Et cependant, madame, je crains que vous n'ayez encore d'autres fautes à vous reprocher. Pendant sa vie, qui dura plus de 12 ans, je puis vous attester solennellement, répondit-elle, que je n'en ai point commis d'autres. Et considérez, monsieur, puisque cela est en ma faveur, ce que peut être une femme perdue de réputation et dénuée de tout moyen de subsistance. Croyez-vous que le monde ait assez de bienveillance pour laisser rentrer dans le chemin de la vertu une brebis égarée comme je l'étais, quelque désir qu'elle en puisse avoir? Je vous assure donc que c'est cette route que j'eusse choisie, si cela eût été en mon pouvoir. Mais la nécessité me jeta dans les bras du capitaine Waters, avec lequel, quoique non marié, je vécus plusieurs années comme sa femme, et portant son nom. Je me séparai de lui à Worcester, comme il se mettait en marche contre les rebelles. Et ce fut alors que le hasard me fit rencontrer M. Jones, qui me sauva des mains d'un scélérat. En vérité, ce jeune homme est le plus digne des hommes. Je ne crois pas qu'il y ait des jeunes gens dans ce siècle qui aient moins de vices, et il y en a peu qui aient la 20e partie de ses vertus. Je dis plus, quelles que soient les fautes dont il s'est rendu coupable, je suis fermement persuadé qu'il a pris la résolution de s'en corriger à l'avenir. Je le suis comme vous, dit Allworthy, et j'espère qu'il gardera cette résolution. Je dois même dire que je conserve encore les mêmes espérances à votre égard. Je conviens que le monde est trop peu disposé à l'indulgence en pareille matière. Cependant, le temps et la persévérance finissent par le fléchir. Vous pouvez être bien assuré, Mrs. Waters, que si je vous trouve sincère dans d'aussi bonnes intentions, vous ne manquerez, pour les exécuter en effet, d'aucun des secours qui seront en mon pouvoir. » Mrs. Waters tomba à genoux devant lui, et les yeux inondés de larmes, lui fit les plus vifs remerciements de sa bonté, qui, comme elle le disait avec raison, tenait plus de la nature divine que de la nature humaine. Allworthy la releva et lui parla dans les termes les plus tendres, faisant usage de toutes les expressions que la langue pouvait lui fournir pour la consoler. Lorsqu'il fut interrompu par l'arrivée de M. Dowling, qui, apercevant en entrant Mrs. Waters, tressaillit et parut éprouver quelque confusion. Il se remit aussitôt du mieux qu'il put, et dit qu'il était extrêmement pressé de se rendre à l'assemblée qui se tenait chez M. Weston, que cependant il avait cru de son devoir de venir instruire M. Allworthy de l'avis des avocats sur le cas dont il lui avait parlé, que cet avis était que la conversion des billets de banque ne pourrait être du ressort du tribunal criminel, mais qu'on pouvait appeler en jugement celui qui les avait trouvés, et que s'il paraissait au jury que ces billets appartinssent réellement au plaignant, celui-ci pouvait espérer, sur leur rapport, d'en retrouver la valeur. Allworthy, sans rien répondre à cela, ferma la porte au verrou, et, s'avançant vers Dowling, en lançant sur lui un regard sévère, lui dit « Quelque pressé que vous soyez, monsieur, il faut que vous me répondiez d'abord à quelques questions. Connaissez-vous cette dame ? « Cette dame, monsieur, répondit Dowling, après avoir beaucoup hésité. « Monsieur Dowling, continua Allworthy du ton le plus imposant, si vous mettez quelque prix à ma protection, et si vous voulez rester un moment de plus à mon service, n'hésitez pas, ne me trompez pas, mais répondez exactement et avec vérité à toutes les questions que j'ai à vous faire. Connaissez-vous cette dame ?
Oui, monsieur, j'ai vu cette dame.
Où, monsieur ?
Chez elle.
Pour quelle affaire avez-vous été chez elle, monsieur ? Et qui vous y a envoyé ?
J'y suis allé, monsieur, pour savoir, monsieur, des nouvelles de monsieur Jones.
Et qui vous avait envoyé savoir de ces nouvelles ?
Qui, monsieur ? C'est monsieur Blifil qui m'y avait envoyé.
Et qu'avez-vous dit à cette dame à ce sujet ?
Il est impossible, monsieur, de se rappeler exactement chaque mot.
Voulez-vous bien, madame, aider la mémoire de monsieur ?
Il m'a dit, monsieur, dit Mrs. Walters, que si monsieur Jones avait assassiné mon mari, j'aurais tous les secours d'argent dont j'aurais besoin pour la poursuite de ce procès, et qu'il me serait fourni par un très digne gentilhomme, qui savait bien à quel scélérat j'avais affaire. Je puis attester par serment que voilà les expressions mêmes dont il s'est servi.
Est-ce là, en effet, monsieur, ce que vous avez dit ?
Ma mémoire ne peut se le rappeler exactement, mais je crois bien que j'ai parlé dans ce sens.
Et monsieur Blifil, vous l'avait-il ordonné ?
Assurément, monsieur, je n'aurais rien fait de mon chef, et je n'aurais pas voulu excéder mes pouvoirs dans une affaire de cette nature. Ce que j'ai dit, c'est d'après les instructions que m'avait données monsieur Blifil.
Monsieur Dowling, je vous promets devant cette dame que quoi que vous ayez fait en cette affaire par l'ordre de monsieur Blifil, je vous pardonnerai, pourvu que vous me disiez exactement la vérité, car je crois ce que vous dites, que vous n'auriez pas agi de vous-même et sans ordre en cette affaire. Monsieur Blifil vous a donc aussi envoyé pour interroger ces deux hommes à Aldersgate.
Oui, monsieur.
Et quelles instructions vous avait-il données ?
Rappelez-vous-les du mieux que vous pourrez, et dites-moi, autant qu'il vous sera possible, jusqu'aux expressions dont il s'est servi.
Monsieur Blifil m'envoya, monsieur, pour tâcher de découvrir quelques personnes qui eussent été témoins oculaires de ce combat. Il craignait, me dit-il, qu'il pût être gagné par monsieur Jones ou quelqu'un de ses amis. Il ajouta que le sang voulait du sang, et que non seulement tous ceux qui cachaient un meurtrier, mais encore ceux qui négligeaient ce qui était en leur pouvoir pour le faire mettre entre les mains de la justice, étaient complices de son crime. Il me dit encore qu'il savait que vous désiriez vivement que le scélérat fût puni, quoiqu'il ne fût pas à propos que vous parussiez en ceci.
Il vous a dit tout cela ?
Oui, monsieur, je puis vous assurer que je n'aurais pas été aussi loin pour toute autre personne que pour vous.
Qu'appelez-vous aussi loin, monsieur ?
Je vous prie de croire, monsieur, que je ne voudrais pas, à quelque prix que ce fût, m'être rendu coupable de les avoir subornés ou de leur avoir conseillé de se parjurer. Mais il y a deux moyens de rendre témoignage. Je leur dis donc que si on leur faisait quelques offres de l'autre côté, ils eussent à les refuser, et qu'ils pouvaient être assurés de ne rien perdre, en étant honnêtes gens et en disant la vérité. Je leur dis qu'on nous avait déclaré que M. Jones avait le premier frappé le gentilhomme en question, et que si c'était là la vérité, ils eussent à la déclarer. Je leur donnais à entendre qu'ils n'y perdraient pas.
Je pense en effet que vous avez été fort loin.
Je vous proteste, monsieur, que je ne les engageais point à dire un mensonge. Et je n'en aurais pas même dit autant si ce n'eût été pour vous obliger. Vous n'auriez pas cru sans doute m'obliger si vous aviez su que ce monsieur Jones était mon neveu.
Assurément, monsieur, il ne me convenait pas d'avoir l'air de savoir ce que je croyais que vous désiriez cacher.
Comment donc ? Le saviez-vous ?
Si vous m'ordonnez de vous dire la vérité, je le ferai, monsieur.
Oui, monsieur, je le savais. Ce furent les derniers mots que prononça madame Blifil au moment où j'étais seul à côté de son lit, et en me remettant la lettre que je vous ai apportée de sa part.
Quelle lettre ?
Celle, monsieur, que j'apportais de Salisbury et que je remis entre les mains de M. Blifil.
Oh, Dieu ! Et quels furent ces derniers mots que vous dit ma sœur ? Elle me prit par la main, et en me remettant la lettre, me dit « Je sais à peine ce que j'ai écrit. Dites à mon frère que M. Jones est son neveu. Il est mon fils. Qu'il soit heureux. » Alors elle tomba en arrière comme près d'expirer. J'appelai sur le champ au secours. Elle avait perdu la parole et elle mourut peu de minutes après. Allworthy garda quelque temps le silence, levant les yeux au ciel et puis s'adressant à Dowling. « Comment ne vîtes-vous pas, monsieur, me remettre cette lettre ?»« Vous devez vous souvenir, monsieur, que vous étiez alors malade et retenu dans votre lit. Étant très pressé, comme je le suis toujours, je remis la lettre à M. Blifil, qui m'assura qu'il allait vous la remettre. Je lui répétai aussi les dernières paroles de sa mère, dont il me promit de vous instruire. Il m'a dit depuis qu'il l'avait fait, et que tant par amitié pour M. Jones que par égard pour votre sœur, vous ne vouliez pas qu'on en parlât jamais, et que votre dessein était que le monde l'ignorât. Voilà pourquoi, monsieur, si vous ne m'en aviez parlé le premier, je n'aurais jamais pensé qu'il m'appartint d'en ouvrir la bouche, ni à vous, ni à personne. Nous avons déjà remarqué ailleurs que l'on peut cacher un mensonge sous les expressions de la vérité. C'était ici le cas, car Blifil avait réellement dit à Dowling tout ce que celui-ci venait de rapporter. Mais Dowling n'avait pas été dupe, et n'avait jamais imaginé qu'il pût l'être. Dans le fait, les promesses que Blifil avait faites à Dowling furent les seuls motifs qu'il avait engagé à garder le secret. Et voyant maintenant avec évidence que Blifil ne serait plus en état de tenir ses engagements, il pensa qu'il était à propos de faire cette confession, que la promesse d'être pardonné, jointe aux menaces, au regard d'Allworthy et aux découvertes qu'il avait précédemment faites, lui arrachèrent, dans un moment où d'ailleurs il n'était pas préparé et n'avait pas le temps de songer à des subterfuges. M. Allworthy parut très satisfait de ce récit, et ayant enjoint à Dowling le plus profond silence sur ce qui s'était passé, le conduisit lui-même à la porte de la rue, de peur qu'il ne vît Blifil qui était entré dans sa chambre, où il triomphait du dernier mensonge qu'il venait de faire à son oncle et soupçonnait peu ce qui s'était passé depuis. Comme M. Allworthy retournait à son appartement, il rencontra Mrs. Miller, qui, la pâleur sur le front et la terreur dans les yeux, lui dit « Oh, monsieur, on m'a dit que cette méchante femme avait été avec vous. Je vois que vous savez tout. Cependant, n'abandonnez pas pour cela ce pauvre jeune homme. Considérez, monsieur, qu'il ignorait que ce fut sa mère. Cette découverte suffira probablement pour l'accabler tout à fait, sans que vous y joigniez le poids de votre colère. « Madame, dit Allworthy, je suis si frappé d'étonnement de tout ce que j'ai entendu, que je suis réellement hors d'état de vous répondre. Mais venez avec moi. En vérité, Mrs. Mella, j'ai fait des découvertes surprenantes, et vous les connaîtrez bientôt. » La pauvre femme le suivit en tremblant. Alors M. Allworthy, s'approchant de Mrs. Waters, la prit par la main et, se tournant vers Mrs. Mella, lui dit « Quelle récompense accorderai-je à cette dame pour les services qu'elle m'a rendus ?»« Oh, Mrs. Mella, vous m'avez mille fois entendu appeler mon fils, ce jeune homme, dont vous êtes la si fidèle amie. Je ne croyais guère alors qu'il me fût allié sous aucun rapport. Votre ami, madame, est mon neveu. Il est frère de cet infâme serpent que j'ai si longtemps nourri dans mon sein. Elle vous racontera elle-même toute l'histoire et par quelle aventure il a toujours passé pour mon fils. Je suis convaincu à présent, Mrs. Mella, qu'il a été calomnié et que j'ai été trompé. Trompé par quelqu'un que vous soupçonniez trop justement d'être un scélérat. C'est en effet le plus infâme de tous les scélérats. » La joie qu'éprouva Mrs. Mella en ce moment lui ôta la faculté de parler, et l'aurait privée de l'usage de ses sens, peut-être même de la vie, sans un torrent de pleurs qui vint à propos à son secours. Enfin, se sentant assez remise pour être en état de parler, elle s'écria « « Mon cher Monsieur Jones est donc votre neveu, et non le fils de cette dame. Vos yeux sont donc ouverts à la fin. Je vivrai donc assez longtemps pour le voir aussi heureux qu'il le mérite. Il est certainement mon neveu, dit Allworthy, et j'espère que tout le reste arrivera comme vous le désirez. » « Et c'est à cette chère, excellente femme, s'écria Mrs. Miller, à qui vous devez cette découverte ?»«
À elle-même, dit Allworthy. »
« Oh, s'écria Mrs. Miller, en se jetant à genoux, que le ciel fasse pleuvoir sur elle les plus grandes bénédictions, et pour cette seule bonne action, lui pardonne toutes ses fautes, quelque nombreuses qu'elles puissent être. »
Mrs. Waters les informa alors qu'elle croyait que Jones serait bientôt mis en liberté. Attendu que le chirurgien venait d'aller avec un lord dont elle ignorait le nom, chez le juge de paix qui l'y avait fait mettre, pour certifier que M. Fitzpatrick était tout à fait hors de danger et procurer au prisonnier sa liberté. M. Allworthy dit qu'il serait charmé de retrouver son neveu en liberté à son retour, mais qu'il était pour le moment obligé de sortir pour une affaire importante. Il appela un domestique pour lui faire approcher une chaise à porteur et laissa les deux dames ensemble. M. Blifil, ayant entendu le bruit de la chaise, descendit chez son oncle, car il ne manquait jamais à cette espèce de devoir. Il lui demanda s'il sortait, ce qui est une manière polie de demander à quelqu'un où il va. Allworthy ne lui répondant pas, il le pria de lui dire quand il comptait rentrer. Allworthy ne répondit pas davantage à cette question. Mais près d'entrer dans sa chaise, il se tourna vers lui et lui dit « Écoutez, monsieur, je vous prie de retrouver avant mon retour la lettre que votre mère m'écrivit sur son lit de mort. » M. Allworthy sortit alors et laissa Blifil dans une situation qui ne peut être enviée que par un homme qu'on va pendre à l'instant même.